Des logements abordables, désirables et durables. Notre vision de la qualité. Une matinée événement organisée par l'Office foncier solidaire des Yvelines sur Radio Immo et Radio Territoria.
Bien voilà les amis, nous allons conclure cette matinale ici dans l'écrin architectural de l'hôtel du département, ici à Versailles. Une matinale que nous avons dédiée à l'OFS 78 des Yvelines, l'organisme foncier solidaire. Ça tombe bien puisque le directeur général est avec nous. Bonjour Simon Goudiard.
Bonjour Sylvain.
Merci d'être avec nous. Et merci de nous avoir permis de couvrir votre événement. Vous êtes accompagné de Pierre-Henri Julien, le directeur général de CERCAL.
Bonjour.
Merci d'être avec nous également. Une petite question comme ça d'ambiance, cette matinale où vous avez réuni tout un écosystème, voilà, premier feeling.
Super, un très très bon retour. On a fait le choix il y a deux ans maintenant, quand on a créé la première édition de cette matinale, d'avoir un événement en fait assez confidentiel. Et d'ailleurs, on bataille toujours avec l'ensemble de nos partenaires qui souhaitent y participer. Et le choix qu'on a fait, c'est d'avoir exclusivement des partenaires avec qui nous avons engagé des actions concrètes et opérationnelles. Une sorte de groupe d'happy few, on peut dire les choses de cette manière-là, mais parce que l'objectif de cette matinale, c'est un moment de convivialité, c'est un moment de partage, et puis c'est un moment de réflexion collective. Et à partir du moment où on a pu partager une expérience commune avec un certain nombre de ces acteurs, c'est encore plus enrichissant justement pour faire aboutir l'ensemble des sujets qu'on a pu évoquer ce matin, qui ont été très riches. Pierre-Henri pourra compléter, d'autant plus qu'on est dans une séquence de marché, dans une séquence budgétaire pour le département qui n'est pas simple. Et donc c'est vraiment la caractéristique, l'ADN de cet événement. On imagine le faire évoluer prochainement parce qu'on voit bien qu'il va falloir qu'on commence à pousser les murs. Mais super retour et ravi de la participation de l'ensemble de nos partenaires et de cet écosystème ce matin.
On va en profiter, bien évidemment, c'est ce qu'on a fait toute cette matinée, pour mettre la lumière sur votre organisation. L'OFS a été créé en 2021.
Oui.
En juin 2021 exactement.
Oui.
Parlez-nous un petit peu de votre organisation. Puisque quand les OFS, le législateur a créé le principe des OFS, avec cette particularité du BRS, du bas réel solidaire, qui au début avait fait couler beaucoup d'encre, bien évidemment, notamment pour les aficionados du droit de propriété, bien évidemment, on voit bien que ça a très bien pris, qu'aujourd'hui le nombre d'OFS s'est généralisé. Parlez-nous justement de votre organisation, comment vous êtes constitué.
Alors on l'a créé effectivement il y a trois ans sous la forme d'un groupement d'intérêt public, créé à l'initiative du département des Yvelines, avec dans le tour de table deux partenaires essentiels du territoire, que sont les résidences Yvelines-Essonne, qui est un bailleur social qui intervient, comme son nom l'indique, dans les Yvelines et en Essonne, et avec la SEM d'aménagement Citalios. L'objectif de cette OFS, donc Office foncier solidaire, c'est de porter le développement des logements vendu sous le contrat du bail réel solidaire, qui consacre le principe de dissociation entre la valeur du foncier et la valeur du bâti. Et l'objectif, c'est de neutraliser la valeur du foncier dans le prix de vente final à nos différents acquéreurs, pour réussir à diminuer les prix de manière assez substantielle, puisque en moyenne, dans la trentaine d'opérations qu'on a engagées aujourd'hui dans les Yvelines, on parle de 35% de décote. Il y a évidemment un certain nombre de contreparties. La principale, et je vais revenir sur le sujet de pleine propriété, pas pleine propriété, la principale, c'est le fait de payer une redevance à 1 euro du mètre carré habitable par mois. Ce schéma-là, d'ailleurs, va légèrement évoluer, on pourra en parler par la suite, mais en réalité, est-ce que c'est une propriété contrainte? Est-ce que c'est une semi-propriété? La réponse est non. C'est un droit réel, ce qu'on appelle un droit réel. Donc les acquéreurs de BRS sont titulaires d'un droit réel, ils interviennent et ils votent dans des copropriétés comme n'importe quel autre propriétaire, ils vont même payer des charges de copropriété et de la taxe foncière. Et en réalité, on voit bien que ça a très bien pris. Le vrai sujet, c'est le prix. Je veux dire, quand on vend à 3 700 € moyen dans les Yvelines contre 5 700, 5 800 dans le neuf, de manière générale, il y a un écart qui est significatif.
Là, ça resolvabilise et vous permettez à la grande partie des administrés du département d'accéder enfin à leur rêve, c'est la propriété.
C'est la propriété plutôt que le loyer à fonds perdu. Voilà. Et pour à peu près la même somme tous les mois.
C'est clair.
Et donc, est-ce que je préfère payer un peu moins en ayant, entre guillemets, cette contrepartie d'aller payer une redevance, mais en ayant finalement cet accès à un logement là où j'ai envie, et donc avec une valeur d'usage importante dans le logement, ou est-ce que je vais m'éloigner considérablement pour pouvoir acheter au même prix, mais donc sans disposer de l'ensemble des caractéristiques territoriales que j'avais auparavant.
D'ailleurs, je vous propose, Simon, que nous y revenions tout à l'heure, puisqu'on va parler aussi de la réaction des usagers, des clients. Parce qu'au début, c'était peut-être un peu nébuleux, un peu complexe, et finalement, ça a très bien pris, puisque in fine, l'objectif a été rempli. Pierre-Henri Julien, vous faites partie des quatre premiers certificateurs français, bien évidemment. Vous êtes quatre à travailler sur, quatre organisations à travailler sur ce sujet. Vous êtes l'un des moteurs de la certification, avec Qualitel CERCAV. Est-ce que vous pouvez nous rappeler d'abord la forme que vous avez, puisque vous irriguez dans pas mal de domaines, il y a longtemps que vous existez, et vous êtes aussi la référence, bien évidemment, dans votre domaine d'activité. Que représente aujourd'hui l'activité de CERCAV ?
Alors oui, effectivement, CERCAV, c'est l'organisme certificateur de l'association Qualitel. Et l'association Qualitel est dans le paysage de la construction et du logement en France depuis 1974. Hein, elle a été créée en 1974 à l'initiative du gouvernement.
Vous avez une forme associative, je crois.
Exactement. Donc c'est une Qualitel est une association. CERCAV, que je dirige, a comme actionnaire unique l'association Qualitel. Et donc évidemment, nous avons un rapport avec le conseil d'administration de l'association qui est très particulier. Alors ce conseil d'administration de l'association, composé de plusieurs collèges, hein, quatre collèges, un collège d'associations de consommateurs, très fort, très prenant, et ça rejoint les problématiques fondamentales de la qualité du logement, un collège de fournisseurs de l'offre et de financeurs, donc la FPI, hein, les promoteurs, l'USH, les bailleurs sociaux, la FNAIM aussi, mais aussi la Caisse des dépôts, qui est présent au sein de ce collège. Un collège sur les acteurs de la construction, architectes, donc UNFA, la CAPEB, la FFB, la IMCC, donc les matériaux de construction qui sont aussi présents, et puis le dernier collège avec l'État, le CSTB, l'ANAH, les grandes agences de l'État et les collectivités qui viennent à la table des administrateurs, réunis autour d'un objectif depuis 50 ans maintenant, qui est l'amélioration de la qualité du logement. Donc assez vite, c'est passé par la certification. Premier label, le label Qualitel portait déjà ses objectifs. Et évidemment, depuis 50 ans, nos référentiels ont évolué.
Pour qu'on comprenne bien ce que vous faites, vous établissez donc des certifications, des process qui permettent finalement, dans le cadre de cette certification, à la fois à l'égard des activités publiques et des politiques publiques, mais aussi à l'égard des instruments financiers qui portent les opérations, d'avoir finalement un process de qualité auquel souscrivent finalement les acteurs de la fabrique de la ville. C'est bien ça ?
C'est ça. La certification, c'est quoi ? C'est d'évaluer un ouvrage au regard d'un référentiel par un organisme de certification. Quand j'ai dit ça, il y a trois points importants quand même qui se dégagent. Il y a l'organisme de certification, qui il est ? Quelle qualité il a, d'où il vient, quelle est sa structure. Il y a le référentiel technique lui-même, hein, qu'est-ce qu'il apporte, comment il a été construit, qui le juge, qui l'évalue, qui décide que telle ou telle exigence est dedans ou dehors. Et puis il y a le process d'évaluation, comment tout ça est évalué concrètement sur les opérations. Et CERCAV se différencie sur ce secteur-là par ces trois sujets. Par qui on est, je vous l'ai rappelé, hein, donc effectivement on a un ancrage très important dans le milieu de la construction. Notre référentiel, il est validé en permanence, il est revu quasiment tous les ans, et je le dis, hein, chaque exigence ne rentre que si il y a un consensus des acteurs de la construction pour le faire entrer.
Est-ce que vous établissez des contrôles a posteriori ?
Alors, ça, c'est la partie évaluation. Et sur la partie évaluation, il y a une phase en conception qui est très significative, avec trois missions, hein. Stade avant-projet, stade études, stade DCE, et puis stade marché, qui va permettre de délivrer un certificat en conception. Et puis, évidemment, à la livraison, eh bien, il y a une vérification sur place. Quelqu'un vient voir, vient contrôler que ce qui avait été prévu est bien installé. On a même la possibilité de rajouter en cours de chantier une évaluation logement témoin qui permet de préparer aussi la suite, de vérifier que les entreprises d'abord restent un peu sous pression et puis se préparent à la phase de vérification.
En fait, vous êtes le garant de tous les aspects normatifs, effectivement, qui aujourd'hui d'ailleurs ont pris une inflation absolument phénoménale. Alors on pourra discuter peut-être une autre fois ou philosopher sur la question de l'inflation normative. Tant soit peu qu'elle pèse sur le logement des Français, parce que la vraie question, c'est de sortir du logement digne, décent, pour les Français. C'est la mission que vous avez au quotidien, Simon, dans votre FS. Je vous ai réunis, vous êtes réunis tous les deux, puisque vous avez inauguré une convention de partenariat entre votre organisation et l'OFS. Alors, je vous pose cette question, bien sûr. Pourquoi vous l'avez fait? Quelle est l'idée, en fait, d'entamer ce type de partenariat avec aujourd'hui effectivement le Cercle qui est quand même la référence également du secteur?
Alors nous on produit des logements abordables et la problématique c'est qu'il faudrait surtout pas que ça laisse penser qu'on produit des logements bas de gamme. Au contraire, je dirais même que d'ailleurs dans la plupart des opérations dans
lesquelles on imaginait, on se dit 30% social,
moins cher, est-ce que c'est tout pourri? Et donc, mais pour dire les choses basiquement, parce que c'est comme ça que c'est exprimé parfois par certains de nos acquéreurs.
Merci de le dire. Et puis même certains opérateurs, qui disent oui. Bref, on a compris. Il n'y a pas d'antagonisme entre la qualité d'un logement dit social. Ouais. D'ailleurs, on pourrait même dire on fait du logement tout court plutôt que mais dans les mêmes conditions.
Et donc le BRS est un outil assez exceptionnel dans la mesure où en neutralisant la valeur BRS, du bail réel solidaire et donc dissociation foncier bâti et donc en neutralisant la valeur du foncier dans le bilan du promoteur, en fait, on dégage une marge significative qu'on va pouvoir réinjecter dans le prix de revient et donc dans la qualité du logement. Mais c'est pas suffisant parce qu'en fait, il faut qu'on puisse parler entre guillemets d'égal à égal ou sur des objectifs communs avec nos partenaires maîtres d'ouvrage, puisqu'en tant qu'OFS, nous ne sommes pas maîtres d'ouvrage, nous investissons dans des opérations.
Bien sûr.
Et c'est en ce sens que on a eu un rapprochement très naturel avec Pierre-Henri et ses équipes, qui est de dire, il faut qu'on se rapproche d'un organisme certificateur, lequel organisme certificateur va être pour l'OFS un tiers de confiance. C'est-à-dire que nous ne sommes pas jugés partis, nous n'avons pas notre cahier des charges, on va voir un acteur tiers dont on le sait qu'il a la connaissance, qu'il a le recul, qu'il a l'observation de l'ensemble des acteurs de la filière immobilière aujourd'hui, pour nous dire effectivement, votre partenaire immobilier est en train d'avancer dans la bonne voie pour produire des opérations résidentielles qui correspondent à ce que vous recherchez, qui en plus de ça vont être respectueuses de la planète dans un contexte de dérèglement climatique important, et qui par ailleurs, apporte de l'amélioration dans la qualité d'usage. Donc, pas cher, économe en charge, en facture énergétique, et donc économe en émissions de gaz à effet de serre, et en plus de ça, avec un confort, un bien-être, qu'on ne retrouvera pas dans n'importe quelle opération. Donc c'était assez fondamental pour nous, et on est très heureux, effectivement, d'officialiser aujourd'hui cette signature avec Qualité Cercle.
Alors, bien évidemment, la certification... C'est un enjeu important. D'ailleurs, vous n'êtes pas très nombreux dans le secteur, parce que, je le disais tout à l'heure, il y a quatre acteurs connus. Cinq ?
Trois ?
Oui.
Enfin, j'en ai trois en tête.
Ah, d'accord. Je retiens bien sûr Cercal. Il y a Certivea.
Ah,
il y a Promotelec et Prestataire.
Vous avez raison.
Mais peut-être qu'il y en a plus. Ceux que je connais. Vous le savez, messieurs, on traverse, et on s'est largement exprimé ce matin d'ailleurs sur le sujet, et merci d'ailleurs à vous Simon, justement on a pu entendre votre président s'exprimer, on a eu Olivier Lebrun, le maire de Biroflet, on a eu Pierre Bédier, ne pas avoir Pierre Bédier dans l'émission, c'était juste pas possible, et avec la verve qu'on lui connaît, les élus locaux sont à portée du territoire, et ils ont une vision extrêmement pragmatique de la situation. Mais la situation est grave. Elle est une crise multifactorielle et qui est à la fois aussi de fond. Et peut-être que tout ce bouleversement est propice au changement. Encore une fois, les impacts sont quand même assez délétères puisque les autorisations d'urbanisme et les permis de construire qui ont été délivrés sur l'année n'ont jamais été aussi bas. Il faut remonter à plus d'une dizaine d'années pour retrouver des chiffres équivalents. Sauf qu'entre-temps, on a une démographie galopante qui a explosé la demande de logement. notamment les phénomènes de décohabitation, qui même à démographie constante ont fait une demande, ont créé une demande absolue, et on voit bien que la machine de la construction de logements neufs est en panne, pour plusieurs raisons bien évidemment, des raisons qui sont à la fois politiques mais aussi structurelles, coût des matières premières, coût du foncier prohibitif, et bien évidemment, je ne pouvais pas ne pas l'aborder, une hausse des taux d'intérêt qui a été d'une violence inouïe. En quoi vous, dans votre organisation, qui est une organisation publique, ça a eu un impact sur votre activité, et comment, surtout Simon, vous envisagez la possibilité de rebond dans un dessin politique qui est quand même relativement certain. J'ai entendu ce que vous disiez tout à l'heure, c'est impressionnant ce que vous avez fait comme en termes de résultats. Ce que vous êtes arrivé à faire, c'est impressionnant. Vous avez sorti, je crois, plus de 600 logements. Je vous ai entendu tout
engagé
à l'heure.
600 logements.
Engagé 600
c'est
logements.
C'est ce qu'on va sortir dans les prochains mois.
C'est juste, c'est 24 millions d'investissements, si je vous ai bien entendu.
Tout à fait.
C'est colossal.
Ouais.
Pour une organisation comme la vôtre, et surtout dans un cadre législatif qu'on appelle les OFS, qui est finalement assez récent, parce que vous n'avez été créé qu'il y a 3 ans.
Tout à fait.
Donc parlez-nous un petit peu de voilà, très directement, sur comment vous la voyez, et surtout comment vous voyez le lien que vous avez avec la sphère publique, la sphère privée, qui aujourd'hui, effectivement, pose question.
Alors nous, on a un double effet pervers. Le premier, c'est que, j'imagine que le président Bédier en a parlé, une grande partie des recettes du département sont issues des recettes qu'on appelle les droits de mutation à titre onéreux, c'est-à-dire les frais de notaire. Donc quand le marché immobilier se casse la gueule, évidemment on perd une partie significative des recettes, et comme en tant que OFS et donc JIP et donc opérateur du département, l'essentiel de nos dotations viennent du département, et ben à un moment donné on a une trajectoire budgétaire qui n'est plus tenable. Donc 24 millions investis, dont une part d'endettement évidemment, mais juste avant l'été, moi le message que j'ai commencé à passer à nos partenaires opérateurs immobiliers, c'est on arrête les engagements, on se rappellera à la fin de l'année, voire en 2025, mais aujourd'hui je ne sais pas porter de nouvelles opérations. Et le deuxième effet pervers, c'est que par ailleurs, les opérateurs eux-mêmes n'ont plus rien à se mettre sous la dent. Et donc aujourd'hui, on a une panne qui est liée en fait à la matière première, la ressource première de l'immobilier, qui est le foncier.
C'est le foncier.
Voilà. Et donc c'est là où nous, moi, la perception que j'ai de cette crise, c'est que c'est pas une simple crise conjoncturelle, c'est une crise durable. Je dirais même une crise existentielle en fait de notre industrie immobilière.
Ah,
c'est-à-dire que là, il faut se remettre en question sur tout un tas de choses. Où est-ce qu'on place le curseur en termes de création de valeur? Se reposer les questions de savoir qui sont nos clients finaux. On a trop d'acteurs dans cette filière qui ont un peu perdu de vue que parfois, à la fin, c'est des gens, c'est des usagers, et qui ont réfléchi dans une logique purement économique, qui ont créé de très très belles années, parce qu'on avait des conditions de taux par ailleurs qui étaient exceptionnelles il y a encore 4 ou 5 ans, mais qui aujourd'hui créent des effets délétères. Et donc je pense que cette crise, elle va être durable, et donc il va falloir changer nos modes de financement, c'est ce qu'on va faire, puisqu'aujourd'hui on a une redevance à 1 euro, on va basculer progressivement vers une redevance un peu plus élevée, ou en tout cas ajustable à l'opération, qui va permettre en fait d'aller chercher beaucoup plus de dettes. Donc
on peut imaginer quoi, une redevance à 1,50
euros. On imagine entre 1 et 2 euros en fonction des situations, sans jamais dépasser
les 2
euros.
Parce que c'est vrai qu'au début, vous aviez une redevance universelle.
C'est ce qu'on a fait jusqu'à présent.
Absolument.
À compter de 2025,
vous l'avez dit, sanctuarisé, mais voilà.
On fera entre 1 et 2 euros. Et puis, je pense qu'il y a un sujet aussi fondamental qui va être de savoir reconstruire la ville sur la ville et faire du recyclage de l'existant. La ressource foncière, elle n'est pas infinie. On a aujourd'hui un contexte réglementaire qui s'appelle le ZAN, zéro artificialisation nette, qui fait qu'on va arrêter de s'étaler. Et je pense que c'est une bonne chose. Mais si on doit.
Mais le levier de la régénération, pardonnez-moi, Simon, c'est un levier magnifique. Puisque on est. Je vous donne juste un exemple.
C'est juste que les modèle n'existe pas.
Voilà, il y a 55 millions de mètres carrés de bureaux quasiment en Ile-de-France. On a à peu près, grosso modo, entre 2,5 millions et 4 millions de mètres carrés tout à fait obsolètes, transformation de bureaux en logement, sans compter les bâtiments publics qui, faute parfois de financement, n'ont pas été rénovés suffisamment et pourraient être des zones ou des gisements de logement. Vous y croyez, ça ?
J'y crois. Les modèles n'existent pas et notre dispositif permet d'apporter un début de réponse et ce ne sera pas le seul.
Absolument.
On n'est pas armé
dans l'arsenal des outils.
Voilà, dans l'arsenal des outils. Moi, je crois beaucoup à une palette d'outils très différents qui, mis bout à bout, permettent d'apporter la solution plutôt que des solutions de massification, et c'est un peu ça le sujet.
Bien sûr.
Mais donc nous, on croit beaucoup au recyclage et à la transformation d'usage, notamment en bureau en logement, et à l'intensité aussi des usages. étages. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec quelques mètres carrés de bureaux qui sont à reparamétrer, on peut imaginer plein de choses, et dans les produits logements, et dans les destinations qui peuvent être commerciales.
Vous l'avez d'ailleurs démontré, voilà. Puisqu'à Jouy-en-Josas, vous avez sorti une opération avec Eiffage Immobilier sur une plus de 75 unités, et sur les 75, il y en a 16.
Tout à fait.
Que vous avez porté dans ce cadre-là. Donc vous avez fait non seulement la démonstration que ça fonctionnait, mais vous avez trouvé cette équation également sur le plan économique. Mais vous avez raison. Tout ce bouleversement qui est propice au changement orientera les promoteurs vers d'autres leviers. Est-ce que, effectivement, cette crise que vous avez... Alors vous, côté certification, bien évidemment, on voit bien que forcément, moins de chantiers, moins d'opérations qui sortent, c'est moins de certifications. Je pense que vous n'êtes pas étranger aussi au fait qu'à un moment donné, ça vous impacte également, même si vous avez un statut associatif. En quoi ça a eu un impact sur votre activité? Et justement, comment aussi vous rebondissez pour justement trouver des nouveaux leviers de croissance?
Bah, effectivement, vous l'avez dit, nous, on est un acteur de la filière construction, filière logement, oui. Comme un
vous
autre.
Vous ne pouvez pas faire plus 20 lorsque le marché fait moins 40, je veux dire. Voilà, c'est basique.
On a les mêmes effets. Enfin, on subit les mêmes effets de cette crise qui, je ne sais pas si elle sera durable, mais en tout cas, elle est profonde. Alors, à titre personnel, j'allais dire, au sein de Cercal, évidemment, on s'est organisé, on a anticipé. On a vu un peu, alors, c'est la chance d'avoir des administrateurs qui sont très impliqués dans l'activité. On a des signaux qui nous parviennent et qui permettent de nous adapter. Donc, on a fait des efforts de charge, d'investissement... Pour passer la période. Et puis on a aussi une offre qu'on a essayé d'adapter aux changements qui nous arrivent, parce que Simon a raison, hein, cette crise est profonde. Est-ce qu'elle sera durable en termes de volume, je sais pas, mais en termes d'effet sur la qualité, sur la façon de faire, sur les process, là il y a des choses qui changent.
Bien sûr.
Et donc nous, en tant que certificateurs, sur nos référentiels, sur nos façons d'évaluer les projets, il faut aussi qu'on s'adapte. On suit les nouvelles filières.
La régénération urbaine pour vous,
exactement.
C'est aussi un enjeu. Mais on peut aller plus loin aussi également. On peut parler des modes constructifs qui vont évoluer, notamment par la construction hors site qui commence à se structurer. On a une filière bois qui a peiné à se structurer mais qui est en train de prendre une trajectoire. Puis on a surtout... dans l'économie sociale et solidaire, les circuits courts qui permettent par exemple de récupérer les dépôts matériaux, de récupérer même du béton, d'en faire des granulats sur des formules bas carbone par exemple. Tout ça, ce sont des situations finalement, vous qui êtes les référents, les garants des bonnes pratiques, des nouveaux modes que vous allez intégrer dans vos référentiels, je suppose.
Oui, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que nous, il faut qu'on accompagne, les filières. Alors, la filière, c'est, vous avez raison de le souligner, hein, ce sont des industriels, et on voit qu'eux aussi, hein, ils subissent la crise. Ils ne sont pas à côté du sujet.
L'industrie cimentière, je vous donne juste un exemple, hein, aujourd'hui, c'est une perte d'activité d'environ 30%, juste sur une année. Alors, ce chiffre pourrait être... pas très élevé par rapport à l'économie générale. C'est 85 000 emplois qui ont été détruits. Je reprends le CP qui a été publié le mois dernier par Olivier Saleron, président de la FFB, qui a communiqué sur ce chiffre-là. Et on ne connaît pas encore l'étendue des dégâts par rapport à ça. On a même d'anciens présidents de FPI qui ont été placés sous la protection de la justice. Hein. L'ancienne présidente de la FPI, Alexandra François-Cuxac, a vu son entreprise placée en redressement judiciaire. On a de gros acteurs aujourd'hui. C'est inquiétant quand même, cette crise.
C'est inquiétant, mais je crois qu'il se trouve qu'en ce moment, on déploie sur le territoire ce qu'on appelle les rencontres Cercal. On fait venir les industriels, des maîtres d'ouvrage... Et nous-mêmes, et on présente un peu les solutions à
dans le but de leur donner des clés de...
Exactement, voilà. Des clés, sûr. En particulier, là, on a le fameux seuil 2025 qui arrive, le seuil 2028 qui se présente. Et donc, il faut donner des clés à toute la filière. On fait ces rencontres un peu partout. Hier, j'étais à Aix et j'ai rencontré des industriels. On voit que et des maîtres d'ouvrage. On voit que les solutions se trouvent, c'est-à-dire qu'il y a chacun s'y met. Vous parlez de la filière béton, ils trouvent des solutions. Ils ont des bétons décarbonés. Il y avait un industriel du chanvre qui venait aussi, qui a expliqué un peu les solutions d'isolation en chambre qui pouvait se présenter. Voilà, il y a des vraies game imagination qui est mise en œuvre.
Bien sûr.
On parlait de la filière hors site, c'est le cas aussi. Hein. Beaucoup d'acteurs sont au groupe autour de la filière hors site, le bois évidemment.
Bien sûr.
Voilà, tout ça,
c'est là qu'on voit, et ce sera ma dernière question à vous deux, c'est là qu'on voit l'importance du politique. Parce que tout est politique. Et surtout en matière de logement, alors bien évidemment, il est pas l'heure de fustiger un État qui se jacobinise et qui centralise de plus en plus, au détriment d'ailleurs des territoires et des élus locaux, qui voient d'ailleurs, ce que vous disiez d'ailleurs en suspens, parce que Pierre Bédier l'a d'ailleurs très rappelé avec la verve qu'on lui connaît, mais le maire de Viroflay également, c'est-à-dire que transfert de compétences sans recettes, c'est pas possible. Et acquérir aujourd'hui, ou intégrer, pardon, de nouveaux habitants dans certaines localités, c'est pas possible non plus, puisque il faut construire les aménités qui vont avec. Et les collectivités locales aujourd'hui se retrouvent avec justement cette pression démographique sans en avoir les moyens. C'est un vrai sujet au niveau des régions, et c'est un vrai sujet également au niveau de la gouvernance. Je voudrais qu'on parle des usagers, des clients qui aujourd'hui utilisent. Juste faisons un tout petit peu d'histoire. De 1789 à 1790, c'est liberté, égalité, propriété. Et ça devient égalité, bien évidemment, après la constituante. Donc on voit bien que les Français ont inventé le droit de propriété. Donc le fructus, l'abusus, l'usus, c'est quelque chose auquel on est attaché. Et pourtant, Simon, on voit des personnes dans lesquelles il n'y a pas de débat, ça fonctionne très bien. Donc cette idée qu'on nous glisserait vers une amphithéose à l'anglo-saxonne, elle est fausse.
Oui, elle est fausse, puisqu'en fait, on a quand même une sécurisation qui n'existe pas dans le système de l'amphithéose à l'anglo-saxonne, qui est qu'à mesure qu'on approche de la fin de son bail, on perd de la valeur sur son bien.
On
capitalise en plus. Et la vraie innovation de ce dispositif, notamment en France, c'est son caractère rechargeable. Donc en fait, j'ai une durée de bail, mettons, de 30 ou 40 ans. Le jour où je revends mon logement, celui qui prend la suite, le bail repart pour la durée initiale. Et donc de cette manière-là, on arrive à sécuriser une valeur dans le temps de la matière immobilière.
On pourrait même dire que le parce qu'il n'y a pas de limite, que c'est équivaut à un droit de propriété à durée illimitée.
C'est un droit de propriété à vie qu'on peut même transmettre à ses enfants, qu'on peut même mettre en donation. Donc ça veut bien dire qu'on est quand même très proche de ce droit de propriété.
Très juste.
Simplement, le législateur a essayé de trouver une astuce qui ne vient pas totalement corrompre cette propriété qui est très chère aux yeux des Français, effectivement,
mais
en trouvant les moyens de la rendre la plus abordable possible et pour le grand nombre.
C'est clair. Et vous, justement, côté Cercal, quand vous avez vu apparaître le BRS et ce nouveau mode d'accession à la propriété, vous avez trouvé ça, bien sûr, très, très innovant. Parce que quand on voit aujourd'hui le nombre d'OFS qui se sont multipliés et les élus locaux qui se sont pris à bras-le-corps, justement, ainsi que les bailleurs sociaux traditionnels, on peut le dire, c'est une franche réussite.
Oui, tout à fait. C'est vraiment
côté utilisateur,
c'est clairement l'imagination, le changement de modèle. Enfin, tout à fait. Ce dont on a besoin en ce moment. Moi, première fois que j'en ai entendu parler, c'était à Rennes il y a déjà quelques années, et j'avais trouvé ça. Je connaissais pas du tout, et j'avais trouvé ça assez extraordinaire qu'on puisse tourner la table et changer la façon de faire.
Et il faut le dire d'ailleurs, les amis, c'est pour le bien exclusif des Français et de ceux qui peuvent accéder à la propriété, sans dégrader le pouvoir d'achat, parce que vous l'avez rappelé très justement, Simon, avec le même loyer que vous pourriez payer, vous avez la possibilité de l'épargner pour la retraite, pour le patrimoine. On n'est pas obligé d'acheter sa résidence principale pour faire la culbute telle qu'on avait cette imagerie où on a rasé gratis pendant une dizaine d'années avec des taux très très bas. On revient finalement au fondamental de l'acquisition de la résidence principale, qui est le lieu protecteur, le lieu intime, le lieu où se fabriquent les projets de vie, et c'est bien ça que vous faites, vous, à l'OFS, vous participez au projet de vie, à l'éclosion des projets de vie des citoyens dans les localités avec l'aide des élus locaux. Il faut le rappeler, il faut défendre et aimer les élus locaux. Merci, Simon Boudia. C'est un vrai plaisir de partager ce moment. Encore merci vraiment au nom de toute la rédaction de nous avoir permis d'être ici avec les acteurs de la Fabrique de la Ville. Un grand merci à vous. Également, Pierre-Henri Julien, je rappelle que vous êtes le directeur général de Cercal, et vous, Simon Goudière, le directeur général de l'OFS 78. Toutes ces émissions sont à récupérer sur l'application de Radio Immo, accessible sur les plateformes d'écoute et en podcast. Vous pouvez liker et commenter. rappelez-vous toujours avec beaucoup de bienveillance, beaucoup d'actions. On sera avec vous la semaine prochaine au Salon des maires et collectivités locales. Vous y serez certainement.
Oui, tout à fait.
On vous y accueillera, surtout vous
venez avec joie.
Sur le plateau. D'ailleurs, on va faire un rond de serviette. On va marquer là, Simon Goudiard, gravé. Vous êtes chez vous sur Radio Imo. Pierre-Henri, vous êtes également le bienvenu sur notre plateau. Ce sera du 19 au 21, à Porte de Versailles, le grand rendez-vous des élus locaux. C'est un sujet extrêmement important. Nous préparons également le CIVI qui a lieu mi-décembre. Rappelez-vous, Porte de Versailles, le salon de l'immobilier d'entreprise, mais pas que, puisque maintenant, il s'est élargi à toutes les classes d'actifs. Je sais que le mot, parfois, on l'utilise mal, mais en tout cas, on est sur la fabrique composite de la ville. Merci à toutes et à tous d'avoir participé également à cette émission. On remercie les élus locaux de leur bienveillance également. D'ici là, prenez soin de vous et on se retrouve sur les antennes de Radio Imo.
Des logements abordables, désirables et durables. Notre vision de la qualité. Une matinée événement organisée par l'Office foncier solidaire des Yvelines sur Radio Imo et Radio Territoria.